Éclairage. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Hélène Renard.
Madame, Monsieur, bonjour. Merci d'avoir choisi Canal Académie et cette émission dans laquelle j'ai le plaisir de recevoir Jean-Robert Pitt, président de la Société de Géographie et membre de l'Académie des sciences morales et politiques. Bonjour.
Bonjour.
Merci de ce rendez-vous régulier consacré à la géographie et à l'éclairage que cette discipline peut apporter à notre société. Vous venez de publier, Jean-Robert Pitt, non pas un énorme volume consacré à la géographie, mais bien au contraire, un tout petit livre en forme de credo. Il s'intitule « Le génie des lieux » et il est publié chez CNRS Édition. Alors je dis que c'est une sorte de credo.
Oui, c'est un petit manifeste, de choses qui me tiennent à cœur.
4 chapitres et 60 pages, c'est
voilà,
court. Hein.
C'est une brochure.
C'est une brochure. Moi, j'appelle ça un opuscule.
Un opuscule,
mais
très bien.
Mais au fond, c'est bien. C'est un credo,
opuscule.
J'ai raison.
Mais c'est un credo, oui.
Alors, premier article de votre credo, je crois en l'esprit des lieux, bien sûr. Et pour illustrer cela, vous citez justement le Japon. Vous relatez deux lieux habités par l'esprit, le palais impérial de Tokyo et Ise, un autre lieu. Alors faites-nous rêver et emmenez-nous un peu au Japon.
Écoutez, bon, j'ai la chance de fréquenter le Japon depuis plus de 3 décennies et j'y ai appris beaucoup, beaucoup de choses qui m'ont confirmé dans un certain nombre d'intuitions que j'avais de par ma propre culture occidentale, française, chrétienne. Et je me suis aperçu, ce qui est vrai dans le monde entier d'ailleurs, mais que le secret du Japon, c'est la croyance très forte des Japonais dans les forces de l'esprit. Le Japon est un pays qui continue à vivre dans une vieille religion venue de la nuit des temps, qui est le Shinto, qui est une religion animiste, très peu formulée par des dogmes, sur lesquels les Japonais ne savent pas dire grand-chose, dont ils n'aiment pas parler, parce que ça ne les empêche pas d'être bouddhistes à côté, pour un certain nombre d'entre eux, même la majorité, et d'être aussi chrétiens pour d'autres. Tout ça se combine relativement bien en une sorte de syncrétisme très bien vécu, je dirais. Les Japonais sont des gens à l'aise dans leur lieu, dans leur archipel, et ça tient en leur profonde croyance que cet archipel est habité. Il est enchanté par, donc dit le Shinto, par des esprits, je dirais de manière plus générale, par l'esprit, avec un grand E. Le Japon, qui n'est pas très religieux en apparence, est profondément spiritualiste. On ne le sait pas toujours. On les imagine très matérialistes, et en réalité, c'est un pays profondément spiritualiste. Et on le sent très bien dans ces deux lieux extraordinaires qui sont le cœur du Japon, pour tout Japonais, qui sont le palais impérial de Tokyo et le temple d'Issée. Le temple d'Issée étant lui-même lié d'ailleurs en partie au culte impérial. Donc vous savez peut-être que dans la tradition japonaise, l'empereur est le descendant de la déesse du soleil, Amaterasu, c'est le pays du soleil levant, que la dynastie impériale a été engendrée par la déesse du soleil levant, et que cet empereur, dans la constitution actuelle du Japon, depuis 1945, n'a pas de rôle religieux officiel, il est le symbole du Japon, constitution qui a été dictée par les Américains. Et cet empereur vit dans un palais très sobre d'apparence, qui est au cœur de la ville de Tokyo, ville de 30 millions d'habitants.
Un palais qui se visite ?
Un palais qui ne se visite pas.
Mais vous l'avez visité, je suis.
J'ai eu le privilège d'y être reçu une fois, mais j'ai vu ce qu'était le protocole dans ce palais, qui est tout à fait hiératique et extraordinaire, alors que l'empereur lui-même est quelqu'un de très très simple. Il était venu il y a quelques années en visite d'État à Paris, et j'avais eu le privilège de le rencontrer, mais là il serrait la main à tout le monde, tandis qu'en son palais, il respecte un protocole qui est venu de la nuit des temps, lui aussi, et tout à fait impressionnant. Et ce palais, c'est un bois sacré. Ce sont des bâtiments dispersés dans un bois sacré de 100 hectares au cœur de cette ville kafkaïenne de Tokyo, qui est un typhon permanent. Et là, tout n'est qu'ordre et beauté, luxe calme et volupté, rien ne bouge, aucune ligne de métro ne passe en dessous, l'empereur ne dit rien, ne fait rien, mais il est là. Et le fait d'être, le fait d'exister, fait qu'il est l'âme du Japon. Et sans lui, ce que beaucoup de Japonais ne disent pas avec des mots, mais un étranger comme moi peut se permettre de le dire, sans lui, le Japon n'existerait pas. Ce mot de symbole dans la Constitution est d'une force incroyable pour les Japonais. Et donc l'empereur est le garant de la transmission de la vie, et le garant de, par exemple, comme l'empereur de Chine, naguère, il repique le riz dans sa rizière sacrée du palais impérial une fois par an. Et tout le monde sait que s'il ne le faisait pas, il pourrait arriver des choses graves. Et ça n'est pas une superstition parce que ça ne va jamais jusqu'à la formulation. La superstition a besoin d'être formulée et tombe très vite fait sourire et tombe dans le ridicule. Là, on est dans l'ineffable, dans l'informulé, dans les choses qui correspondent profondément à ce trait de la mentalité japonaise, de la culture japonaise qui nous est si étranger. Ce qui est important ne se dit pas avec des mots. Ise, c'est pareil. Ise, c'est le plus haut lieu de culte de la déesse Amaterasu. C'est un temple en bois. Enfin, il y a plusieurs temples, mais le temple principal en bois est reconstruit tous les 20 ans.
Voilà, j'ai appris
dans
ça
un,
dans
dans un bois
livre.
Sacré. On entretient un très grand nombre de charpentiers, 170 charpentiers, qui travaillent à la reconstruction du temple en permanence. Et c'est un temple en bois avec une architecture très, très archaïque, mais extrêmement belle. Et à l'intérieur, il n'y a rien. On y conserve simplement un des symboles du pouvoir impérial, qui est un miroir que seul l'empereur peut regarder. Et tout Japonais se doit d'aller de temps en temps au temple d'Issé. Depuis très longtemps, il y a toujours eu des pèlerinages au temple d'Issé. Et actuellement, par exemple, les collèges, les lycées vont très volontiers au temple d'Issé pour faire partager ce qui fait que le peuple japonais est uni.
On a très envie d'y aller aussi.
Il faut
aussi
y aller parce que c'est d'une beauté extraordinaire. Il y a des arbres extraordinaires. C'est très, très beau.
Alors, deuxième article, Jean-Robert Pitt, de votre petit credo, je crois que le ciel ne va pas nous tomber sur la tête. Alors, pourquoi il y en a qui croient que le ciel va nous tomber sur la tête ?
Nous vivons dans un monde, surtout dans les pays occidentaux, qui est terrorisé par le réchauffement du climat, par la surpopulation, par l'insuffisance d'alimentation, par la baisse de la biodiversité, les OGM, etc., par toutes sortes d'épidémies, par le choc des civilisations, etc.
On
vit dans une peur permanente, peur millénariste. Ce n'est pas la première fois dans l'histoire qu'on a cela, mais on ne se rend pas compte que ça, c'est vraiment typiquement occidental. C'est l'Europe. Et c'est l'Amérique du Nord qui vit dans cette espèce de hantise. On a remplacé l'art de gouverner par le principe de précaution, ce qui est dramatique, je trouve. On a mis le principe de précaution dans la Constitution. C'est une folie absolue. Jamais dans l'histoire, on a fait des choses pareilles. Alors que je trouve, et comme la plupart de mes collègues géographes, que certes, il y a des réalités très préoccupantes dans la marche du monde, y compris environnementale, mais que les choses vont plutôt beaucoup, beaucoup mieux que naguère. Lorsque j'étais étudiant, nous étions 3 milliards d'hommes à la surface de la Terre et il y avait 1 milliard d'hommes qui ne mangeaient pas à leur faim. Aujourd'hui, il y a toujours 800 millions ou 1 milliard d'hommes qui ne mangent pas à leur faim, qui vivent dans des conditions très précaires, mais nous sommes 7 milliards.
Donc la proportion
est plutôt meilleure. La Chine et l'Inde mangent à peu près à leur faim. Il y a le réchauffement du climat dont on parle. Bon, on ne l'a pas vu ces dernières semaines beaucoup en France ou en Amérique du Nord, mais il y a le réchauffement du climat qui est incontestable, mais dont les causes sont encore matière à débat. Et puis surtout, on a tous les moyens techniques à notre disposition pour empêcher les drames. On a vécu en France ces derniers jours, de très grandes inondations dramatiques sur la côte. Ce n'est pas de la faute de la mer ni du réchauffement climatique. La tempête, il y a toujours eu des tempêtes. Le problème, c'est qu'on s'est installé, l'homme s'est installé de son plein gré dans des zones inondables avec des digues insuffisantes et mal entretenues. Donc la catastrophe devait arriver. Ce n'est pas la faute de la tempête, c'est la faute des hommes qui se sont installés là où il ne fallait pas et mal protégés. Il n'y a pas eu. La tempête est passée sur les Pays-Bas. Les Pays-Bas, depuis un demi-siècle, ont considérablement entretenu, renforcé leurs digues. Il n'y a pas eu de problème. Donc, au Japon, il y a des tremblements de terre tous les jours. En général, il n'y a pas de mort. C'est sûr que si arrivait à Tokyo un tremblement de terre force 9, ce serait un drame. Mais il y a des tremblements de terre force 6, 7 très régulièrement au Japon qui ne provoquent aucune conséquence fâcheuse parce que tous les immeubles construits depuis 50 ans sont de qualité antisismique, etc. Il y a, tous les malheurs qui arrivent à l'homme ne doivent pas être imputés à la nature, à des changements qui viendraient du ciel, à des punitions du ciel. Ils viennent de l'insuffisante préparation
des hommes, de l'incurie,
de la mauvaise gouvernance. Voilà. Regardez, où aujourd'hui a-t-on de vrais problèmes alimentaires ? Dans les pays comme des pays africains, au sud du Sahara et du Sahel, en Corée du Nord, à Cuba, dans certains pays ou certaines régions d'Amérique latine, c'est-à-dire dans des pays mal gouvernés, où il y a des mafias, où il y a une insécurité permanente, où il n'y a pas de vrai gouvernement stable, la corruption est partout. Et évidemment, les conséquences, elles sont là, mais les causes sont humaines. Donc, regardons-nous dans le blanc des yeux, avec un regard informé, et comprenons qu'il y a des solutions, qu'il y a des remèdes. Les problèmes énergétiques ont des remèdes, toutes. Regardez, nous sommes ici à l'Institut de France, devant la Seine. La Seine, aujourd'hui, on pourrait boire l'eau de la Seine, presque, sans conséquences graves pour la santé.
Oui, il y a 100 ans, sûrement pas.
Oui, mais on le faisait. Mon œuvre qui est devant nous comportait une pompe qui était la Samaritaine, la pompe de la Samaritaine, et on allait pomper l'eau de la Seine dans laquelle il y avait des cadavres, dans laquelle, là, il y avait de réels dangers d'attraper des maladies graves. Donc, beaucoup de choses vont plutôt mieux. Il y a des choses, des situations et des réalités environnementales ou autres réellement très préoccupantes, mais le plus souvent de la faute des hommes. Toutes les guerres n'arrivent que parce que les hommes les déclarent. Les guerres, c'est la folie.
Alors, il y a une phrase dans votre livre qui est un peu parallèle à ce que vous dites. Il ne faut pas créer de frontières entre l'homme et le reste de la nature. Il faut même s'interdire d'utiliser l'expression « l'homme et la nature » puisqu'ils ne font qu'un. C'est ce que les dévots de la nouvelle religion écologique n'ont pas compris, tout en jurant leur grand Dieu du contraire.
Oui, je trouve qu'il y a un certain nombre... Je suis tout à fait pour l'écologie scientifique, évidemment. Ce serait une folie d'être contre, et qui a fait progresser la connaissance dans bien des domaines. Mais il y a des militants que moi j'appelle de manière un peu simplifiée des Khmers verts, pour qui la nature est un dieu à part entière, non pas au sens shinto du terme qu'on évoquait tout à l'heure, mais doit être respecté en tant que tel, et l'homme doit être absolument humble devant le monde minéral, le monde végétal, le monde animal. Or, pour moi, l'homme fait partie du monde animal, avec une différence majeure, c'est qu'il est doué de raison, d'intelligence, de liberté, et qu'il a un pouvoir d'action sur les trois autres règnes, minéral, végétal et animal, qui est légitime. Il ne devrait, pour moi, mais peut-être je choque certains auditeurs en disant cela, il ne doit pas y avoir de droits de la nature, mais seulement des droits de l'homme. Seul l'homme a des droits à la surface de la Terre. La nature, ou ce qu'il est convenu d'appeler nature, donc le règne minéral, végétal et animal en dehors des hommes, ne peut pas être encadré par une législation qui protégerait ces univers comme s'il s'agissait de populations humaines. N'oublions pas une chose, c'est Luc Ferry qui avait remarqué ça dans un livre qui s'appelle « Le nouvel ordre écologique » paru il y a une quinzaine d'années.
Que vous citez, oui.
Seuls les nazis avaient imaginé un droit de protection des animaux. Vous vous rendez compte? Ça fait froid dans le dos quand même de penser à cela. Donc, je pense que si l'homme ne gère pas correctement son environnement, c'est le sien, c'est l'environnement des hommes, il n'y a pas d'environnement avec un grand E, c'est l'environnement des hommes. Si l'homme le gère sans sagesse, eh bien ça lui retombe sur le nez. Là, le ciel peut lui tomber sur la tête, mais c'est de sa faute. C'est de sa faute, c'est par manque de connaissances géographiques.
Petite pause dans ce credo de Jean-Robert Pitt, on se retrouve après quelques notes musicales. Retour dans notre studio et troisième article du credo de Jean-Robert Pitt qui a publié ce petit opuscule « Le génie des lieux » chez CNRS Éditions. Alors le troisième credo, c'est « Je crois que la géographie et les géographes sont nécessaires à la société ». Évidemment, puisque vous êtes géographe,
non,
mais
non,
comment
sont-ils ? Pour ça. C'est pas seulement pour ça, parce que je vous avoue que lorsque j'étais lycéen, je n'étais pas absolument fasciné par la géographie. J'ai découvert petit à petit à l'université son intérêt et le plaisir qu'elle procure, et surtout sa nécessité. Donc c'est devenu une conviction, une partie de mon credo, non pas dans un esprit boutiquier, je dirais,
non,
où je
pas
le défends,
ni
revanchard, mais pas non plus corporatiste. Je pense que si la géographie disparaissait, c'est parce que les géographes ne sauraient pas expliquer combien elle est utile. Mais je crois que nous vivons à une période qu'on met volontiers sous le vocable de mondialisation, et ça fait très peur à une partie de nos contemporains. Je pense que la géographie apprend à apprivoiser la mondialisation, parce qu'elle apprend à mieux comprendre l'autre, l'ailleurs, à mieux comprendre que, au fond, rien n'est directement reproductible à la surface de la Terre. Toutes les situations sont différentes. Ce qui se passe dans une région ne se produira pas forcément dans une autre. Il y a des processus d'uniformisation, certes, qui sont en cours, mais il y a aussi des processus de diversification considérables. Et il ne faut pas en avoir peur, parce que c'est cette diversité qui apprend à bien comprendre la géographie, qui, je crois, permet d'être mieux maître de son environnement physique, de son environnement humain, et de mieux comprendre l'intérêt qu'il y a à imaginer des solutions de bonne gouvernance. Avoir une culture géographique permet d'acquérir, par exemple, le sens de l'appartenance territoriale à son quartier, à sa ville, à sa région, à son pays, à l'Europe, ces identités emboîtées qui sont si nécessaires aujourd'hui. C'est bien d'avoir un ancrage local, micro-local, et puis un ancrage régional, y compris avec parler une langue régionale, par exemple, pourquoi pas. Mais bien entendu, dans un pays comme la France, l'ancrage national et l'identité nationale me paraît essentiel. Ça n'existera pas sans culture géographique. C'est ce qu'avait bien compris Jules Ferry sous la Troisième République, qui avait fait de l'apprentissage du calcul, enfin de l'écriture et de la langue, du calcul, de l'histoire et de la géographie, les piliers.
Les quatre piliers.
Les piliers de la
culture de base.
Avec l'instruction civique, hein, ça allait ensemble, la morale. C'était les piliers de la nation française. Et ça a marché. Alors, avec des conséquences, évidemment, qu'on connaît. Parfois des rives nationalistes où il est certain que les pauvres Français qui sont morts sur les champs de bataille de la Première et de la Deuxième Guerre mondiale, et surtout de la Première, ne seraient pas partis avec autant de foi et de courage s'ils n'avaient pas eu cet enseignement auparavant. Mais d'un autre côté, s'ils n'avaient pas eu ce courage, la France aurait été envahie. Donc tout ça est à double tranchant. Mais je pense que si Français et Allemands avaient eu une conception de la géographie plus ouverte, parce que n'oubliez pas, une des causes de l'extraordinaire de la dérive nationaliste des Allemands depuis l'unité allemande, pratiquement, ça tient à une chose. Ça tient au fait que la géographie a été biaisée et qu'elle a été mise au service d'un projet nationaliste. Comme il y a un livre très très bien à ce sujet qui remonte à 25 ans de Michel Corinman qui s'appelle « Quand l'Allemagne pensait le monde » et qui est une histoire de la géographie allemande du 19e siècle et qui montre comment on a fabriqué une géographie et appris aux jeunes Allemands une géographie, les galvanisant complètement dans l'esprit que l'Allemand était supérieur à ses voisins. Et ça aboutit aux dérives que vous connaissez dans les années 30, avec des fondements géographiques complètement faux, mais très réels, dans ce qu'on mettait dans la tête des jeunes Allemands. Ça s'est produit d'ailleurs dans d'autres pays, comme le Japon, au moment de ces dérives nationalistes des années 30. C'est pareil, la géographie était biaisée en disant « il y a un pays qui est supérieur aux autres et nous sommes légitimes à créer un grand empire autour de nos valeurs ». Donc ça, c'est une vision de la géographie qui est dangereuse.
Détournée de sa propre mission.
Toute discipline peut être dangereuse. Vous savez, la physique nucléaire, ça peut servir à créer l'énergie à bon marché et très sûre. Ça peut aussi servir à créer des bombes atomiques qu'on envoie sur ses voisins. Donc ça, c'est la liberté humaine. Et la géographie, ça apprend aussi le sens de la liberté des hommes à la surface de la Terre. Ils peuvent faire des choses absolument merveilleuses et des choses catastrophiques. Donc il faut faire attention à ce que notre belle discipline, la géographie, soit mise au service, certes, de la liberté, mais d'une liberté qui n'exclut pas l'autre et l'ailleurs.
Alors nous autres géographes, je cite Jean-Robert Pitt dans ce credo, nous autres géographes n'avons donc qu'une fonction, et j'oserais dire qu'une seule utilité, révéler le génie des lieux, afin d'aider les hommes à trouver l'harmonie avec eux-mêmes et avec leurs contemporains en quelque lieu qu'ils se trouvent. C'est bien la conclusion de ce que vous
disiez. Oui, j'ai essayé, parce que le Japon m'a révélé, mais qui existe aussi en France. Il est certain qu'il y a plein d'endroits en France qui sont habités, où souffle l'esprit et où on se sent des montagnes, enfin des paysages, mais aussi des centres-villes. Enfin, il y a des monuments, des lieux qui réellement sont
inspirés.
Il y a des collines inspirées, mais il y a des lieux qui sont chargés d'émotions et dont nous avons besoin pour vivre.
Bien sûr.
Y compris des lieux modestes.
Beauté aussi, mais oui. En général, ils sont beaux d'ailleurs, on remarque.
Oui, tout à fait.
Quatrième article de votre credo, Jean-Robert Pitt, je crois en la diversité. Alors,
oui.
Ça s'oppose à la mondialisation, justement.
Ça ne s'oppose pas. Pour moi, c'est une des facettes de la mondialisation. Je crois à l'unité de la condition humaine, je crois à l'universel, comme un certain nombre de amis et confrères philosophes ou sociologues. Je pense à ce qu'a écrit Alain Renaud sur l'universel, ou à ce que pense Raymond Boudon ou Jean Béchler. L'universel, c'est essentiel dans toutes sortes de domaines. Mais l'universel prend des formes extrêmement variées. Et c'est ça qui est merveilleux, c'est que la géographie apprend à discerner ces formes, à les comprendre, à savoir pourquoi c'est différent, pourquoi ça n'est pas pareil ici et à côté. Et elle apprend à vivre avec et elle apprend que c'est une richesse extraordinaire.
Que c'est une richesse.
Parce que notre tournure d'esprit humain a besoin de cette diversité. Si vous connaissez cette phrase qui vient d'un poème du XVIIe siècle, je crois, de l'uniformité naquit un jour l'ennui. Et l'ennui, c'est la mort. Donc l'uniformité est acceptable pour un animal. La souris, elle peut se nourrir tous les jours de la même façon, vivre de la même façon, faire la même chose. Ça ne pose pas de problème parce qu'elle est programmée pour ça. L'homme ne peut pas vivre de cette façon-là.
Il lui faut de la variété, de la diversité.
Et c'est bien le drame. La privation de liberté, qui est par exemple la situation de quelqu'un qui est incarcéré en prison, entraîne l'uniformité du rythme de vie. Et il faut être extraordinairement fort pour supporter cela et pour s'en sortir après. Mais il y en a qui s'en sortent parce que l'esprit humain est plus fort que la routine. L'esprit humain crée constamment de la diversité. L'éducation, bien sûr, pousse à ce sens-là. Regardez, deux jumeaux homozygotes, même élevés dans la même famille et côte à côte, ont finalement des idées, des comportements différents, des génies différents. Donc même la génétique n'arrive pas à nous programmer, même s'ils ont plus de points communs, évidemment, que des frères et sœurs qui ne sont pas jumeaux. Donc je pense que l'homme a besoin d'exprimer sa personnalité. Le problème est donc de créer des lieux, des paysages, des aménagements spatiaux autour de lui qui lui ressemblent, individuellement ou collectivement, parce que l'homme est un animal social, et on ne peut jamais reproduire ce qu'on a vu ailleurs. On peut s'inspirer de ce qu'on a vu ailleurs, mais on ne peut jamais reproduire. Ce qu'on a vu, ça n'existe pas, parce que tout est unique à la surface de la Terre. Et moi, ça ne me choque pas, un certain nombre de gens, parce que c'est compliqué à étudier quand vous avez tant de diversité d'expression, des personnalités, et en particulier dans l'ordre de la géographie, donc de la création, par exemple, de paysages, de formes de gestion de l'espace. Mais cette diversité est extraordinairement enrichissante quand on la comprend. Et permet, de, par exemple quand on fait du tourisme, de vivre avec beaucoup de bonheur la compréhension d'expériences différentes, de paysages différents, de gens différents qui ne parlent pas la même langue, qui ne mangent pas de la même façon, qui ne vivent pas de la même façon, mais avec qui il est toujours passionnant et enrichissant d'échanger.
Alors pour conclure, une petite citation de Jean-Robert Pitt dans cet ouvrage dont je rappelle le titre « Le génie des lieux ». Il est paru chez CNRS Éditions. « Rechercher ». Cultiver la diversité en toutes choses est non seulement le meilleur moyen d'enrichir les échanges entre les hommes et donc le meilleur usage possible de la mondialisation galopante, c'est en outre le plus sûr moyen de réenchanter le monde. Merci Jean-Robert Pitt.
Merci à vous.
À bientôt pour une autre chronique géographie.